Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est pendant les webconf, ça me donne quand même une idée de quelles sont vos questions, où ça vient, et donc au fur et à mesure par rapport à mon fil directeur de publication, puisque bon, j'ai un certain nombre de choses à vous dire et ça suit un fil d'idées, on va dire, eh bien il est évident que à chaque fois qu'il y a des questions, qu'il y a des webconf, ça me permet de pouvoir rajouter des articles supplémentaires ou des informations complémentaires pour bien sûr toujours rester si possible collé à vos questionnements. Parce que ça sert à rien que je fasse des articles avec un cours et puis que ben, vous ayez décroché. Donc comprenez que c'est un aspect pédagogique des choses. Donc par rapport aux questions qui ne sont pas sur l'enregistrement, de toute façon, elles seront répondues d'une manière ou d'une autre dans les articles. Alors, il y en avait une qui était sur les 10 planètes et l'évolution dimensionnelle de 2014. Donc, je vois que Brigitte m'a dit que c'était répondu dans l'article 26 sur le futur du jeu. Ensuite, il y avait une question sur l'esprit directeur et ascension, qui était, par exemple, bon, je vais répondre, notre esprit supérieur sait-il si nous allons échouer ou pas dans notre tentative d'élever notre fréquence vibratoire? Tout cela est-il déjà programmé en nous? Alors, ce qui n'est pas programmé, il n'y a rien de programmé. C'est-à-dire que, puisque vous utilisez véritablement votre libre arbitre, bien sûr, votre esprit directeur a envoyé une partie de lui-même en vous. Mais cette partie de lui-même en vous s'appelle en fait votre soi supérieur, c'est-à-dire votre petite voix. Or, si vous n'écoutez pas vos petites voix, qu'est-ce qu'il peut faire votre esprit directeur? Il peut absolument rien faire. Comme dire l'autre, il va juste compter les points. Alors, les points positifs et les points négatifs. Mais il ne sait pas comment vous allez réagir. Parce que sinon, s'il savait déjà tout, pourquoi viendriez-vous vous incarner? Donc, c'est dans l'incarnation qu'on voit, comme derrière l'autre, c'est au pied du mur qu'on voit le forgeron, hein, ou le maçon. D'accord? C'est-à-dire que, il ne sait pas. Il dit, voilà, j'aimerais bien que. Et donc, si vous écoutez votre petite voix, il a une possibilité, effectivement, de vous aider à avancer. Mais si vous n'écoutez pas votre petite voix, il ne peut absolument rien faire. Alors, notre esprit supérieur sait-il déjà si notre ego ou notre personnalité sera capable de s'en remettre totalement à lui? Sait-il déjà si nous serons capables seulement de nous reconnecter à lui? C'est la même chose. Lui, votre soi supérieur, travaille selon les lois de l'un. Et donc, il y a des tas de choses qu'il ne comprend pas de vous. Par exemple, avec le même principe avec les esprits cristallins. C'est-à-dire que si vous utilisez du négatif, il ne comprend pas. Si vous dites j'en veux ou j'en veux pas, pour lui ça veut dire j'en veux. Il ne comprend pas le négatif. Le négatif n'existe pas dans le langage du soi supérieur. Et d'ailleurs dans toute la nature. Donc ça c'est une création de chez nous, ça. Donc il ne peut pas savoir. Donc par exemple, tout le monde réel que nous voyons, hein, c'est-à-dire que quand on regarde une montagne, on voit quelque chose, une belle passer, eh bien, c'est comme nous sommes tournés à l'extérieur, eh bien, pour lui, c'est irréel. Parce que notre soi supérieur, lui, il n'a pas d'écran de cinéma. Il n'a pas d'écran de cinéma. C'est nous, notre soi inférieur, qui a un écran de cinéma. Donc lui, tout ça, c'est du virtuel pour lui. Donc, pour résumer, notre esprit directeur a-t-il prévu déjà notre échec? C'est rien programmé du tout. Qui n'en serait pas un, puisque tout est parfait? Ben oui, tout est parfait, parce que de toute façon, d'une certaine manière, quels que soient les choix que vous faites, une autre partie de vous-même expérimentera le choix que vous n'aurez pas fait. Alors, je sais que c'est un petit peu délicat à comprendre, mais si vous tournez à droite, alors qu'il y avait aussi une route à gauche, et bien une autre partie de vous-même part tournera à gauche. Et donc vous allez me dire que ça fait beaucoup beaucoup de scénarios, parce qu'il y a quand même un paquet de décisions qu'on a prises depuis qu'on est né. Oui. Mais c'est là que interviennent, on va dire, certaines lois, que je pourrais pas dire de scientifiques, parce que les scientifiques ont rien compris de tout ça encore. Mais dites-vous bien que toutes les parties qui se jouent, hein, par exemple, si on prend la galaxie, si même on prend simplement déjà au niveau de la Terre, chaque individu modifie la conscience de l'humanité. Chaque cellule qui est en vous modifie la conscience du corps lui-même. Donc, tout est en interaction permanente. Et on a du mal à comprendre tout ça. Ça dépasse le mental, hein, faut quand même le dire. Bien, alors bon, je me rappelle, il n'y a pas les noms. Donc, voilà. Bon, je pense avoir répondu à ça. Notre esprit directeur n'a pas idée si on va être capable d'ascensionner ou pas, mais dites-vous bien qu'il fait tout pour qu'on ascensionne. Et donc, si on écoute notre petite voix, c'est le maximum qui est fait pour que ça puisse se faire, puisque c'est le but du jeu quand même, je vous rappelle. Hein. Le but du jeu, c'est que en étant incarné, nous arrivions à toucher la 12e, voire la 13e dimension, c'est-à-dire à revenir au niveau du soleil, c'est-à-dire à redevenir Christ. C'est ça, le jeu. Donc, si, depuis des milliers d'années, et on va dire des milliers d'incarnations, il fait tout son possible pour devenir Christ. Mais à travers l'expérimentation. Voilà, sinon il ne serait pas venu. Qu'est-ce qu'il foutrait sur le soleil? Et pourquoi il enverrait des particules d'esprit s'incarner dans des véhicules? Il n'y a aucun intérêt. Donc. Alors, loi de l'un, toi tu nous parlais des lois de l'un. Alors, les lois de l'un, il y en a un certain nombre, mais bon, ce qu'il faut comprendre globalement, c'est que quand on dit les lois de l'un, ça veut dire qu'il faut comprendre que vous ayez, que nous sommes un en fait. C'est-à-dire un dans le sens du son nom. Nous sommes une particule du son nom. Nous sommes une individualité du son nom. Un indivisé, on va dire. Donc, quelque part, tout est amour, dans le sens que tout est communication. Donc un individu qui ne communique pas ou qui ne veut pas communiquer est dans l'évolution. Donc la loi du sans-nom, c'est transparence totale. Une loi, pas du sans-nom, une loi de l'un. Imaginez que vous ayez certaines cellules qui bossent toutes seules dans leur coin et qui ne veulent rien dire aux autres. On appelle ça un cancer. C'est de l'involution. Bon. Il y a un certain nombre de lois. Après, bon, bah, les lois sont relativement simples. Mais ça, j'ai écrit déjà pas mal de choses là-dessus. La loi de l'attraction et de la résonance, par exemple. Enfin, il y en a plein. Donc, je ne vais pas me répéter là-dessus. Non. Alors, il y en avait une qui était évolution de conscience de l'humanité. Si nous sommes au fond du trou, nous ne sommes jamais allés aussi loin, comme tu le dis dans la vidéo 18, que dire de l'humain? Par exemple, à l'époque médiévale, qui était d'une certaine manière moins conscient, moins évolué spirituellement, etc., que nous. N'est-ce pas parce que l'évolution de la conscience opère que nous sommes au seuil de ce qui advient? Cette évolution de conscience doit avoir des prémices datées en notre temps humain, non? Comme, après la Seconde Guerre mondiale, 1945, le mouvement hippie 68, l'an 2000-2012. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes effectivement en évolution, hein, en évolution de conscience. Mais il y a aussi eu une évolution, on va dire, de l'expérimentation par elle-même, qu'il ne faut pas oublier. Donc, l'inquisition, excusez-moi, avait pour principe de nous pousser le plus loin possible, le plus bas en vibration. Alors, les gens n'étaient pas spirituellement moins bons. Ils étaient généralement plus connectés à la nature qu'on ne l'est aujourd'hui. Hein, donc, d'un certain côté, ils étaient spirituellement plus avancés. Enfin, spirituellement. Et encore, quand on dit spirituellement, c'est encore une manière de penser en religion, l'esprit. Donc, au niveau du cœur, ils étaient largement plus ouverts. Mais, du fait de l'inquisition, qui est donc un système logique, mental et de domination, eh bien celui qui sortait un petit peu du chemin, il se faisait couper la tête ou le bras. Donc, on a appris, comme dirait l'autre, à rentrer dans le rang, à être dans le rang, et surtout à ne pas se faire repérer. Donc, c'est pour ça qu'on parlait de science occulte, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas voir. Donc, ça a été un renfermement. On a essayé, de maintenir certaines connaissances d'une manière secrète. Alors bah, là-dedans, il y a eu la magie noire, il y a eu la magie blanche, il y a eu l'éloge, il y a eu des tas de trucs, mais globalement, ce qui est arrivé, c'est que tôt ou tard, au fil des générations, eh bien, il y a eu toujours cette notion de pouvoir, puisque la fréquence de l'humanité étant tellement basse, que même les gens qui avaient une dévotion envers le sans-nom, envers l'un, et tout ça, se sont fait polluer au fil du temps. En clair, eh bien aujourd'hui, quand vous allez dans des loges XYZ, des des loges maçonniques, enfin tout ce que vous voulez. Mais il n'y a pas que, hein, il y en a plein d'autres partout qui se croient supérieurs à tout le monde et qui ont des degrés, des machins. Dites-vous bien, ce n'est que du pouvoir. Parce que la véritable connaissance qu'ils ont est une connaissance, on va dire, basique. Aujourd'hui, je dirais que les kabbalistes, les gens des loges X, Y, Z, là, je sais plus comment on appelle tout ça, eh bien, dites-vous bien, si je venais à discuter avec eux, ils m'arrivent à la cheville. C'est-à-dire que ce qu'ils ont gardé comme information sont des informations qui datent de l'Inquisition. Donc, ils sont pas au dernier cri. Donc, pour eux, c'est de l'or. Mais s'ils étaient si forts que ça, ça se saurait. Ils sont forts, oui. Ils sont forts quelque part. Ils sont forts dans le monde économique. Ils sont forts pour manipuler. Ils sont forts pour avoir une notion de pouvoir par rapport à vous. Et pour pouvoir manipuler les masses. Donc, grosso modo, ces gens sont dans le pouvoir. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs de ces personnes. Et je peux vous dire que je vois pas en termes de fréquence ce qu'ils ont de plus que les autres. C'est des vrais humains basiques comme les autres. Simplement, ils ont un intellect généralement un petit peu plus fin, un petit peu plus développé, pour mieux vous manipuler. Et ils sont empreints de cette... ils ont un ego, hein, ça c'est clair, ça se sent tout de suite. Hein. Donc, pour être même sûr de se reconnaître entre eux, ils se mettent des bagues ou des trucs, enfin des signes distinctifs. Je peux vous dire que si vous êtes dans la fréquence, vous avez besoin d'aucun signe distinctif. Parce que quand vous êtes lumière, ça se voit. Si par contre vous n'êtes pas lumière, faut mettre des signes distinctifs, quoi. Donc, ça s'appelle aussi, chez certains, des uniformes. Hein. Si t'es habillé en curé, c'est que t'es un curé, quoi. Si t'es habillé en évêque, c'est que t'es un évêque. Mais croyez-moi que pour devenir évêque, généralement, il a fallu croquer quelques curés au passage qui voulaient aussi devenir évêque. Non, nous sommes dans un monde pourri et corrompu jusqu'à la moelle. Croyez que le pape qui est élu là aujourd'hui, il n'a pas fallu qu'il joue des coudes, il a joué des coudes. Hein, on dit qu'il y a de votation tout, mais derrière, ce n'a été que corruption entre tous les différents. Vous savez, c'est comme toute personne qui veut se faire élire. Il dit, il y a des votants. Alors, moi, je vais aller les voir un par un, je vais les corrompre au maximum que je peux, si, pour qu'ils votent pour moi, quoi. Croyez pas que ceux qui ont élu le pape, ils sont clean, propres et des lumières. Non. Ils font partie des êtres les plus... bref. C'est pas des gens que j'irais suivre, personnellement. Mais bon. Hein? Par contre, le peuple, lui, il y a un archevêque, il y a un machin, il y a un truc, tout de suite, ils sont à genoux et au moment de la bénédiction. Il se faut avoir par l'habit, le beau. Bon. Alors, pour répondre à la personne qui a posé cette question, nous sommes montés effectivement en termes de conscience, nous avons beaucoup plus conscience aujourd'hui de ce qui se passe. Nous avons une conscience plus affûtée, parce que, quand même, malgré tout, nous avons un système d'éducation. Il vaut ce qu'il vaut. Il vous bourre le crâne avec des tas de conneries, mais n'empêche que, normalement, on sait tous lire et écrire. Donc, on peut accéder à Internet, on peut lire, on peut se renseigner, on peut... Donc de ce côté-là, c'est sûr que on est à des années-lumière par rapport au temps de l'Inquisition. Dites-vous bien que Gutenberg, s'il n'avait pas existé, les bouquins n'existeraient pas. Enfin, ça serait encore du manuscrit avec un curé derrière qui ferait de belles lettrines. Mais on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, il y a dans cette involution des avantages et des inconvénients. Donc, par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé d'une involution lourde, c'était celle de construire des églises sur les lieux où il y avait des vortex. On en est arrivé à construire des églises où il n'y avait pas de vortex. Donc ça, c'est déjà une involution lourde. Enfin, donc toutes les églises, grosso modo, après le 14e siècle, globalement, hein, bon, il y a encore quelques-unes au 15e, mais globalement, toutes les églises après le 14e ne sont plus du tout sur des vortex. Alors aujourd'hui, c'est assez marrant, c'est que si vous voulez vous reconnecter à un endroit sacré, allez dans une église, mais du 14e et avant. Parce qu'à ce moment-là, pourquoi ? Parce que le vortex qui est là, eh bien, lui, il est en fonction de la grille cristalline. Il est en fonction de l'énergie envoyée par maman ou Raphaël Gaïa. Donc, en clair, c'est des hautes fréquences. Donc, en allant dans ces lieux-là, vous vous branchez sur les hautes fréquences. Et ce qui a permis, on va dire, un certain temps, l'involution de s'installer, eh bien, maintenant, c'est le contraire. C'est-à-dire que vous allez éclaircir le mur. C'est-à-dire que en bénéficiant du vortex à l'intérieur de ce monument religieux, antérieur au XIVe siècle en moyenne, eh bien, vous allez à ce moment-là augmenter votre fréquence. Et en augmentant votre fréquence, vous allez nettoyer les lieux. Vous allez amener de la lumière. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui n'avait pas forcément été prévu par l'évolution. Voilà. Par contre, si vous allez dans des bâtiments qui ont été construits au 15e ou au 16e, ils sont beaux, c'est super gothique, ou je sais pas quoi, c'est super beau, mais ça vaut pas un peu de lapin. Et généralement, comme c'est vachement beau, c'est là que vous avez le plus de touristes qui viennent. Et comme vous avez plein de touristes qui viennent, eh bien, vous avez un paquet d'égrégores et de bestioles qui sont là, et puis qui se disent, ah tiens, du sang frais, on va se servir un petit peu là. Et donc, ce sont des lieux généralement très très noirs. Vous voyez, on en apprend des choses. Alors, bon, je vais terminer là, encore. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? Bon. Une question sur l'astral. S'il n'y a plus d'astral, que deviennent les décédés qui attendent là, sauf erreur? Les décédés qui attendaient là, ils ont tous été embarqués. Parce que quand on dit on nettoie l'astral, on nettoie aussi les fantômes, c'est-à-dire tous ceux qui sont là, quoi. Donc tout cela, ils ont été embarqués en lieu et place sur les 10 planètes, c'est tout. Alors bien sûr, là où il y avait des involuants lourds, hein, c'est-à-dire que ce ne sont pas des créateurs incarnés, ils ont le choix. Soit ils disent, on décide de retourner vers la lumière, à ce moment-là ils sont embarqués dans d'autres lieux, hein, qui ne sont pas les 10 planètes réservées pour les Orientiens. Mais s'ils disent non, j'en ai rien à faire, c'est destroy total, point barre. C'est nettoyage. C'est pas plus compliqué que ça. C'est des résidus de l'expérience. Donc, il faut nettoyer les lieux. Vous savez, comme après une pièce de théâtre, eh bien, s'il y a des papiers de bonbons partout, des cornets de je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Vous savez, souvent, quand vous allez au cinéma, quand vous arrivez, la salle est propre, et quand vous repartez, il y a de la merde. Eh bien, c'est à peu près pareil, quoi. C'est-à-dire que un certain nombre d'involuants qui ne décident pas, on va dire, de se faire recycler, de partir avec, on va dire, les spectateurs pour pouvoir aller vers la lumière, eh bien, ils vont aller recyclage dans la poubelle. Voilà. Bien, écoutez, je vais arrêter là. Et je vous remercie de votre attention.